Jean de La Fontaine, le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Macomer la carpe y faisait mille tours avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. Moi des tanches, dit-il, moi héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, à Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant tout gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loutre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but.
Si tôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l'animal léger. Macumer, il vous faut purger avec 4 grains d'hélébore.
Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque près d'être atteint. Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part. Elle s'évertue. Elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Survient à Jean, qui cherchait d'aventure, et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage.
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant. Plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé.
Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas née, reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère,
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le lion et le rat. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, cette fable fera foi. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez alétourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le rat de ville et le rat du champ. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Un rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt !»« C'est assez !» dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne me vient d'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fi du plaisir que la crainte peut corrompre. » Thank you. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner Commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, mon renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Père, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois, il sommeillait, le savetier alors en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre, le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit, « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»«
Par an ? Ma foi, mon sieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte. Et je n'entasse guère, un jour sur l'autre. Mais suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain.
Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ?
Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que, toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône.
Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vais vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus. Gardez-les avec soin, pour vous en servir au besoin.
Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans la cave, il enterre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Et il n'eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qui ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. »
Le suonerò sì, le suonerò.